Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7 FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.
Nous sommes de retour dans les studios de Radio Coteau. Vous venez d'écouter un morceau de Zoïd, des expérimentations zoïdesques. Comme tous les mois, Zoïd nous fait des expérimentations, des morceaux inédits pour l'émission de radio. Ça fait plusieurs fois qu'il n'a pas pu venir, il s'en excuse. On va passer à la deuxième partie de cette émission avec un changement de plateau. Nos invités de tout à l'heure sont partis, de nouveaux sont arrivés. Stéphane, est-ce que tu peux nous introduire ce sujet ?
Je vais animer donc cette deuxième partie avec Sébastien et Thomas. Et puis, comme invité, donc Marc Saint-Aromain.
Bonjour.
Bonjour. Et Daniel, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ?
Bon, Daniel Rousset, un très vieux militant anti-nucléaire. Ça fait des années que ça dure et je suis actuellement administrateur du réseau Sentier Nucléaire, une fédération qui regroupe la quasi-totalité des associations, groupements anti-nucléaires français. On est à peu près actuellement 930 et qu'il y a à peu près 55 000 personnes qui ont signé la charte du réseau. Donc depuis des années, on essaie de dire il faut sortir du nucléaire le plus rapidement possible.
D'accord. Donc que fait-elle cette association pour sortir du nucléaire ? Elle a des actions
Elle fait des montagnes de choses. Elle fait surtout, par exemple, dans 4 jours, là, le dimanche 11 mars, on va faire une immense chaîne humaine entre Lyon et Avignon, soit 235 km, en espérant que beaucoup de... Puisque la vallée du Rhône est sûrement, en France, la vallée la plus nucléarisée d'Europe. Vous voyez la carte, là, il y en a un paquet. Ouais. Donc on espère des milliers de personnes. Nous, à Toulouse, on a déjà affrété 4 cars pour aller à cette manif. Dans Midi-Pyrénées, je pense qu'on doit être à 23 ou 25 cars. Au niveau de la France, on doit être à une 140 cars. Donc je pense qu'il y a déjà, au niveau de la France, une forte mobilisation. Nous allons voir sur la vallée du Rhône s'il va y avoir beaucoup de monde. C'est vrai qu'en Allemagne, la lutte anti-nucléaire a été presque gagné à cause de ces chaînes humaines. Il y a eu des fois jusqu'à 150 000, 200 000 personnes. Je ne sais pas si encore en France on est capable d'atteindre ça, mais enfin...
Et des militants allemands qui vont venir ?
Oui, aussi, allemands, italiens, mais bon, pas des masses. C'est surtout les gens de Valence, d'Avignon, de Lyon, qui vont, de Bugey, de Pierrelade. Déjà, depuis 6 mois, il y a un certain nombre de manifestations, toujours sous forme de chaînes humaines, qui se sont déroulés dans ces villes, des manifestations de 1000, 1500 personnes. Et donc, c'était une espèce de mise en route, de préparation pour cette grande chaîne humaine du 11 mars.
Vous pensez être suffisamment nombreux pour relier donc,
alors, Lyon vrai que Lyon, 235 km, ça voudrait dire qu'on est au moins à 150 000. Ouais. Bon, ça m'étonnerait, mais au moins, on a décidé on aura des banderoles, des chaînes, enfin des rubans, des foulards entre nous, et je pense qu'on va tenir le pari, c'est fou, de faire vraiment une chaîne en continu sur 235 km.
Ce serait beau et ce serait une belle image aussi.
Je ne sais pas l'image, c'est pas grave. Au moins, les médias ne pourront pas nous...
Un beau symbole, en tout cas.
Oui, parce que ce qu'il faut savoir, il y a un an et demi, on a fait une grosse manifestation à Colmar, à côté de Fessenheim. Et là, on a eu la surprise de voir que les gardes mobiles nous ont quasiment parqués dans une grande avenue de Colmar, en bouclant complètement le boulevard. Et donc là, on a été enfermés. On a eu une manifestation de, je crois, 10 000 personnes enfermées dans un boulevard là, de gardes mobiles. Donc je pense que là, cette fois-là, les CRS ne pourront pas nous parquer sur 235 km.
Oui, c'est difficile. Et pour nos auditeurs, j'aurais peut-être aimé éclaircir un petit peu qu'est-ce que le nucléaire et la radioactivité pour ceux qui
Alors,
sont
faut représenter mon copain Marc Saint-Armand.
Marc Saint-Armand.
Oui, mais essentiellement, on ne rentrera pas trop dans le détail parce que sinon il faudra plusieurs émissions. Mais essentiellement, ce qui est notable, c'est que pour les opérateurs du nucléaire, c'est le nucléaire, la radioactivité, c'est naturel. On baigne dedans, donc il n'y a pas de problème. En fait, c'est faux. Dans la radioactivité dans laquelle on baigne aujourd'hui, elle a des millénaires, elle s'est éteinte sur beaucoup de radioéléments lors de la création de la planète. Il y a eu beaucoup d'émissions de radioactivité qui a fini par s'éteindre partiellement et qui a permis l'apparition de la vie. Donc les bains qui restent aujourd'hui de radioactivité ne sont pas inoffensifs. La première cause de cancer du poumon, après le tabac, c'est le radon, qui est un gaz naturel qui est un descendant de l'uranium dans la fin de chaîne de désintégration.
On trouve dans les granites, non ? C'est
voilà, ça, essentiellement dans les granites. Et dans des zones, ça remonte du fond de la Terre, donc il peut y avoir des zones qui ne sont pas granitiques et qui ont des, par des failles des émissions de radon. Donc c'est quelque chose qui est bien surveillé par un laboratoire indépendant en France, qui est la CRIRAD. Et donc, il suffit de commander pour pas très cher des pastilles et pouvoir savoir dans quel état se situe à peu près la cartographie de la France en matière de radon. Donc ça, c'est un élément naturel. Mmh. Ensuite, il y a pas mal d'autres éléments qui sont produits par les rayonnements cosmiques, comme le tritium, par exemple. Et quand on dit c'est naturel, effectivement, il y en a un peu de naturel. Mmh. On prend les deux réacteurs que nous avons à côté, là, en un an.
Golfech.
Voilà. Mmh. La centrale nucléaire de Golfech, deux réacteurs de 1300 MW. En un an, ils rejettent 2,5 fois le tritium qui est produit naturellement sur toute la France. Deux réacteurs. Et il y a 58 réacteurs en France. Voilà. Donc quand on dit c'est naturel, effectivement, il y a beaucoup de radioactivité artificielle qui est rajoutée, de façon chronique par les centrales nucléaires, de façon accidentelle lors des accidents comme Tchernobyl ou Three Mile Island ou Fukushima, et lors des fameux, ce qu'ils appelaient les essais nucléaires, dans les années 60-70.
Vous parliez de cause du cancer, d'ailleurs le tabac est de la première, mais serait aussi dû en partie à de la radioactivité, notamment des éléments polonium, je crois.
Voilà, ça c'est le polonium 210 est mis en cause au niveau du tabac, et effectivement aux États-Unis il y a une vingtaine d'années, quand ils ont découvert ça, des gens qui n'arrivaient pas à s'arrêter de fumer, le fait que ce soit le polonium 210 qui soit en cause, c'est ce qui a été à base de l'assassinat du journaliste qui était un ancien barbouze russe, Litvinenko, il a été assassiné au polonium 210. Sauf que tout l'avion a pris ça, on l'a pas trop dit, mais tout l'avion a pris du polonium 210. Tout l'équipage et tous les passagers ont pris de ce radioélément.
Ils ont été brûlés,
Comment ?
Ils ont été brûlés par la radiation du polonium ?
Non, en fait, c'est une contamination qui a des effets assez différés. D'accord. Et donc ça s'est répandu dans l'avion. Ils ont rappelé les passagers ultérieurement, mais on n'a pas eu de nouvelles sur la santé de ces gens-là. On n'a jamais de nouvelles a posteriori. Chaque fois, c'est des choses qui s'arrêtent. Donc sur la radioactivité, il y avait ces éléments-là.
C'est vrai que c'est un argument des pro-nucléaires, que la radioactivité elle existe à l'état naturel. On parle même aussi des fois des services de radiologie à l'hôpital qui émettent des pollutions. C'est un gros argument des pro-nucléaires.
Quand même. Voilà, donc si vous voulez, ça c'est un argument, et en plus c'est une manipulation. L'iode-131 sert en matière de recherche sur les problèmes thyroïdiens. Donc c'est un élément qu'on injecte au malade pour pouvoir explorer sa thyroïde. Ce qui fait que ensuite, quand il y a des problèmes thyroïdiens, le traitement s'effectue à haute dose de d'iode-131. Et tout ça fait que sur les grandes villes, en particulier dans les mégapoles comme Toulouse, tout ça est rejeté dans l'eau, et nous, ça fait 20 ans au niveau des amis de la Terre qu'on fait des prélèvements dans la Garonne et qu'on montre qu'il y a des quantités d'iode 131 énormes, et qui posent donc en aval des problèmes de santé chez ceux qui ingèrent cet iode par la voie de l'eau potable. Voilà. Donc ça, c'est un cycle qui est fait. Et ce que disait le professeur Jean-François Viel, qui a fait l'étude autour de la Hague, qui a montré l'excès de leucémie et de cancer autour de la Hague, il disait, dans un document, ce que les médecins ont du mal à comprendre, c'est que la radioactivité puisse avoir des effets néfastes puisqu'ils en servent pour soigner. Et donc ça, c'est dans l'esprit, ils sont persuadés sincèrement que la radioactivité est bénéfique. Il y a même une théorie qui est l'hormésis, qui prône le fait que des faibles doses, un peu comme on ferait avec des poisons, on s'empoisonnerait à faible dose avec de la radioactivité et ça préserverait. Tout ça, c'est absolument faux et c'est des choses qui sont menées. Donc il y a une désinformation totale, parce qu'il faut savoir que derrière, on n'a quand même pas des enfants de cœur au niveau du nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un magma de désinformation lié donc, par les industriels, les politiques et actuellement dans l'Académie des sciences et surtout l'Académie de médecine. Donc ça veut dire qu'en face, on n'est pas quand même dans de beaux draps, d'autant plus que ces gens-là interviennent pour l'Académie de médecine française autour de l'accident de Tchernobyl pour faire des démonstrations sur le territoire. Comment fait-on pour vivre en territoire contaminé ? Donc c'est des programmes Ethos et Corps qui ont été menés. Et en fait, on essaye de faire vivre des gens sur des territoires où il est interdit de vivre. Il faut évacuer.
Voilà. Comme en ce moment au Japon.
Exactement. Il y a des zones au Japon qui ont des taux de contamination qui font que uniquement, parce qu'il y a deux phénomènes sur l'irradiation, il y a soit la contamination interne, donc on ingère la radioactivité, soit une irradiation externe par les rayonnements gamma en particulier ou bêta. Et là, actuellement, au Japon, il y a des zones qui sont uniquement en irradiation externe, qui sont à évacuer, et qui ne sont toujours pas évacuées.
Ouais. Alors, on peut rappeler que c'était il y a un an, la catastrophe de Fukushima. C'est pour ça qu'on fait cette émission au mois de mars. Ça s'est passé le 11 mars, et la catastrophe est toujours en cours. Alors, des zones contaminées comme ça, il y a Tchernobyl, il y a maintenant, qui est contaminé les abords depuis 1986... Il y a donc Fukushima au Japon depuis le 11 mars 2011. Est-ce qu'il y a d'autres endroits qui sont irradiés de cette façon-là, où la vie n'est plus possible ?
Il faut bien comprendre que la contamination naturelle, la radioactivité naturelle, qui existe, comme l'a expliqué Marc, depuis des dizaines de millions d'années, on a ajouté déjà les essais atomiques. Et par exemple, nous, dans la forêt noire, là, au-dessus de Revel, on a fait faire des analyses, parce que justement, on voulait savoir si Tchernobyl avait fait des retombées chez nous. Et on a eu la surprise, en analysant finement au pied des sapins et des bouleaux, là, de voir que c'était des radioéléments des expériences atomiques à l'air libre, des expériences nucléaires qui ont lieu. Il y en a eu un paquet, il y en a eu 400 dans la planète Terre. Donc, on a une contamination à cause ces bombes atomiques qu'on a lancées dans la planète. On a eu une contamination de Tchernobyl, qui est à peu près l'équivalent de tous les essais nucléaires qu'on a fait en aérien, donc très importante. Oui. Et aujourd'hui, la contamination de Fukushima va être sûrement supérieure à Tchernobyl.
Oui, parce que c'est trois réacteurs qui sont rentrés en fusion.
Alors ce qu'il faut savoir par exemple tout de suite, c'est que l'Académie de médecine de New York nous dit... à travers des centaines d'études qu'ils ont compilées, qu'ils ont remis en ordre, on en serait à 1 million de morts.
Où ça
Tchernobyl. Le résultat de Tchernobyl, ce serait déjà, en 20 ans, 1 million de morts. Donc, quand on voit l'AIEA ou l'OMS nous parler encore de simplement de 50 morts...
Oui, j'ai lu ça
mais
aussi.
C'est un mensonge éhonté. On se moque de nous. Faut pas quand même... C'est n'importe quoi. Donc que des organismes officiels d'État comme ça nous disent « Mais Tchernobyl, c'est 50 morts », non, c'est scandaleux.
Comment ça se fait que ce mensonge soit si répandu, que les organismes camoufle la vérité, finalement.
Mais non, mais parce que derrière ça, n'oubliez pas, il y a le lobby nucléaire.
Est-ce que ces mensonges sont réservés à la France ou c'est...
Non, c'est voilà. Mondial.
C'est mondial.
Grâce à Fukushima, on s'est aperçu... Moi, je pensais que c'était assez limité à la France. C'est vrai que la France est maîtresse d'œuvre au niveau mondial pour la désinformation. On l'a vu à Fukushima. Nicolas Sarkozy est parti au Japon. La première opération qu'il a eue d'efficacité, c'est que tous les dirigeants qui étaient en bleu de chauffe sont passés en costume, déjà pour l'image. Il a apporté ça là-bas. Il a apporté la science française sur l'image. Il faut donner une image de propreté, de clarté, de netteté sur des choses qui sont totalement insupportables. Et donc, dans ce que disait Daniel, ce qui est flagrant, c'est que la radioactivité était figée dans la roche. Voilà. Donc ça, c'est depuis des millénaires, elle avait réussi à être figée. Et aujourd'hui, partout à travers le monde, on est en train de concasser des millions de tonnes d'uranium pour extraire le minerai, et on laisse tout ça sur place. Et en particulier, en ce moment, au Niger, c'est une catastrophe. Il y a des montagnes et des montagnes de stériles qui sont en train de se répandre au niveau des vents et qui partent dans les nappes phréatiques. Et tout ça fait que la radioactivité est dispersée. Donc il y a eu les essais nucléaires, il y a eu l'activité humaine, il y a le nucléaire médical... Et en fait, sur la désinformation, il y a quelque chose qu'il faut mesurer, qu'on a mesuré, nous, 15 jours après Fukushima. Fukushima, c'était, pour les propagandistes donc, de France, et après donc du monde entier, puisqu'on l'a vérifié aux États-Unis, puisqu'on l'a vérifié en Angleterre. En Angleterre, au mois d'août, c'est passé inaperçu. Cameron s'organise, il y a des mails qui fuient à travers Wikileaks, des échanges qui montrent que on va ne pas informer l'Angleterre sur ce qui se passe réellement à Fukushima parce que ça pourrait perturber le projet d'installer des EPR en Angleterre. Donc ça, c'est une manipulation qui se fait. Cette manipulation se fait à peu près partout, sauf essentiellement en Allemagne. Il y a quelques pays qui sont épargnés par la désinformation. Et donc, suite à Fukushima, 15 jours après, on apprend, c'est 3 morts du nucléaire, Fukushima. c'est en dessous de 100 millisieverts.
Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel à quoi correspondent les millisieverts?
Voilà, donc en dessous de 100 millisieverts par an, il n'y a aucun problème de santé. Alors que la réglementation européenne, freinée par la France pendant des années, a amené cette réglementation à 1 millisievert par an. Donc l'exposition artificielle créée par l'industrie, la médecine, etc., ne doit pas dépasser 1 millisievert par an. Et là, les propagandistes disent en dessous de 100 millisieverts, il n'y a pas de problème. Alors que déjà, un millisievert, on reconnaît déjà des problèmes de santé.
Ah ouais. Et mais quoi correspond le millisievert? C'est un rayonnement? C'est une densité?
Non, c'est un équivalent de dose. C'est-à-dire que quand on prend, suivant le type de radioélément auquel on est exposé, ils ont des effets sur la santé différents. C'est-à-dire qu'il y a des... Comme si on prend l'iode 132 ou 133, dont on n'a pas parlé. On a parlé de l'iode 131. Mmh. 132 et 133, c'est des iodes radioactifs qui, en se désintégrant, sont deux fois plus toxiques que l'iode 131. Mmh. Donc si on dit, mettons, une activité en becquerel, désintégration par seconde, là, ça devient un peu compliqué. Oui. Si on dit, mettons, 10 désintégrations par seconde en iode 131...
Ça ne prend pas en compte la nocivité de la désintégration.
Ça ne prend pas en compte la nocivité, qui a plusieurs aspects, puisque c'est le type de rayonnement. Donc le rayonnement, il peut être X, gamma, alpha ou bêta. Et suivant le type de rayonnement, l'impact n'est pas tout à fait le même sur l'organisme. Par exemple, on dit bon, l'alpha, c'est pas très grave. Ça a des distances d'émission, de désintégration qui sont pas très importantes. Sauf que le rayonnement alpha, quand il est ingéré ou qu'il est dans les poumons, c'est au niveau des cellules comme un tireur fou qui tire des balles de façon aléatoire tout dans son environnement de quelques millimètres et qui détruit les ADN. C'est là que les phénomènes biologiques se passent. Il y a des ordres qui sont envoyés par l'organisme s'il n'est pas trop fatigué pour réparer. Les réparations se font de façon aléatoire, de façon correcte. Il y a plein de phénomènes qui se passent. Et tout ça fait dire à la communauté internationale que, en dessous, même en dessous d'un millisievert, il y a des impacts, mais à un moment donné, c'est un équilibre, le bénéfice coût-avantage. C'est eux qui l'ont estimé, ils ne nous ont pas demandé notre avis à nous. Ils ont fixé ça à millisievert. Et donc le mensonge, donc, c'est ce que je vous disais, 3 morts, 100 millisieverts par an, il n'y a pas de problème. Et 10% de la contamination de Tchernobyl. Et ça, c'est absolument faux. Et encore des chiffres de l'IRSN, l'Institut de recherche de sûreté nucléaire, sont sortis il y a 8 jours, en maintenant ce chiffre de 10% de la radioactivité de Tchernobyl.
Ce qui paraît, ces 10%-là correspondraient à la pollution atmosphérique, alors que la pollution de Fukushima, elle est marine avant tout.
Voilà. Non, alors,
je me trompe,
là-dessus, il y a déjà le fait des explosions, c'est là que l'essentiel est parti dans l'atmosphère. Donc c'est ce qu'on a reçu en France, puisque nous, le hasard fait qu'on a fait des prélèvements d'eau de pluie en France et on a fait des analyses chez nous, et on était le point le plus élevé en contamination. Il y avait 5 becquerels par litre, 5 becquerels par litre en iode 131 au nord de Toulouse.
Ouais. Et par rapport à... On va dire une période où il n'y a pas Fukushima, pour comparer.
Voilà. Alors, pour comparer par rapport... C'est en gros, c'est sur cet aspect-là, c'est 1000 fois. 1000 fois à peu près ce qu'il y a en temps normal.
1000 fois la dose habituelle, quoi.
Voilà. 1000 à 10 000 fois la dose habituelle pour nous, pour notre région. Donc, si on prend la fourchette Fukushima et la fourchette Tchernobyl, la fourchette basse de Tchernobyl correspond à la fourchette haute de Fukushima chez nous en France, à cette distance. Donc, ça veut dire qu'il y aura un impact en France du passage du nuage de Fukushima.
Et surtout,
mais il sera plus faible que celui de Tchernobyl, mais il y aura un impact, contrairement à ce qui est affirmé par l'Institut de recherche sur sûreté nucléaire, les autorités, etc. Pardon.
Surtout, ce sont les jeunes enfants qui sont le plus fragiles, le plus sensibles à la pollution radioactive. 7 fois plus, j'ai cru lire.
C'est une question de masse corporelle. Ouais. C'est terrible, hein, parce que là, les Japonais, voyant qu'ils ne pouvaient pas résister à cette invasion de radioactivité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la norme. Ça, c'est quand même assez fabuleux. On est passé de 1 millisievert, comme disait Marc, à 20. Donc, quand on est un adulte, on peut dire 80 kilos, bon, là, il y a peut-être une chance. Mais un enfant de 12-15 kilos, non. Ça veut dire que là, les Japonais ont sciemment changé la norme parce qu'ils ne pouvaient pas lutter efficacement contre cette radioactivité.
Bon, le gouvernement japonais, peut-être, il faut préciser. Parce que...
Oui, tu as raison, le gouvernement japonais. Donc, c'est facile, on modifie la norme. Mais le problème des faibles doses n'est pas reconnu au niveau mondial et scientifique. C'est ça le problème. On a basé toutes nos études sur les essais atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, où c'est un autre phénomène. C'est pas du tout pareil. C'est une explosion brutale, intense, mais qui n'a pas le caractère d'insinueux à longueur d'année. Donc notre science radioactive aujourd'hui, quelque part, elle est basée sur des essais nucléaires. ce qui ne correspond pas du tout à un environnement continuel sur de très très faibles doses. Et beaucoup de scientifiques disent aujourd'hui, mais là, on est mal. On n'a pas su gérer les faibles doses. Donc de plus en plus, aux pays européens, les normes imposées à EDF et aux autres diminuent. On l'impose de plus en plus de diminuer les doses admissibles. Mais les doses qu'on nous a dit pour Golfech ou pour les centrales, ce n'est pas des doses réelles de santé, c'est des doses techniques. Parce que EDF, dans ses centrales, ne peut pas faire autrement que de rejeter un certain nombre de radioéléments, de tritium, etc. Mm. Donc, c'est des normes industrielles, ce n'est pas des normes de santé. Mm. Voilà, la manipulation.
Et qu'aurait dû faire le Japon qui n'a pas fait. Enfin, ils auraient pu évacuer la population. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire si vraiment ils avaient voulu sauver et prendre en compte la population?
Là, c'est la question la plus terrible de tout. C'est ce que dit aujourd'hui Naoto Kan, qui a quitté donc le pouvoir suite à Fukushima. Et il dit « J'ai envisagé d'évacuer Tokyo ».
C'était le premier ministre du Japon.
C'est l'ancien premier ministre du Japon, ouais. Donc il vient d'être remplacé. Et il dit « C'était une hypothèse de travail ». Ce qui se passe suite à Fukushima, 8 jours après, l'eau de Tokyo est radioactive. Donc ils annoncent « Ne donnez pas d'eau aux enfants ». Immédiatement, qu'est-ce qui se passe? La même base sur toutes les bouteilles d'eau minérale, en quelques heures, il n'y a plus d'eau. Le lendemain, nouveau message du gouvernement, l'eau est redevenue potable à Tokyo. Voilà. Donc malheureusement, on sait très bien ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait amener des containers par bateau, par avion et par camion pour alimenter Tokyo en eau, et ce n'était pas possible, donc la solution était celle-là. Et chaque fois, donc, on sera confronté, on l'a été en Russie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, financièrement, la chute de l'ex-URSS est essentiellement liée à Tchernobyl. Il y a d'autres facteurs, mais ça en fait partie. Et malheureusement pour le Japon, là, aujourd'hui, il est engagé dans un processus qui fait que les choses vont être terribles. Et là, actuellement, l'AIEA a lancé un message il y a quelques mois en disant « Arrêtez de vous occuper de la Terre, occupez-vous des gens ». L'AIEA qui fait ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils déblayaient la Terre pour enterrer la Terre, pour enterrer la Terre. Et à un moment donné, il n'y a plus d'espace pour enterrer quoi que ce soit. Et donc,
ils enterraient la Terre parce que la radioactivité s'accumulait en surface avec les pluies.
Ouais. C'est ça. Ils avaient essayé de sauver ils ont raclé, c'est ce qu'ils ont fait.
Dans les cours d'école.
Voilà, essentiellement. Ouais. Sauf que, comme le disait Daniel, on est allé à la montagne noire. Et donc, 30 ans après les essais, on a montré qu'il y avait encore les traces de radioéléments qui se retrouvent par capillarité dans les champignons en particulier, dans les végétaux, qui remontent dans l'atmosphère, comme ça s'est produit récemment en Russie avec les incendies, qui repartent dans l'atmosphère, etc.
Ouais. Quand vous parlez des essais... Vous parlez d'essais de bombes nucléaires qui ont été faits dans le désert algérien ou des choses comme ça que vous avez retrouvées?
Par exemple, oui.
Non, en fait, ça reste par hémisphère. L'essentiel de ce qui s'est passé des hémisphères sud est resté à l'hémisphère sud. Et c'est vrai qu'effectivement, là, on a vraiment quelque chose qui est en train de ressortir maintenant. C'est bien parce qu'il y a peu de politique, mais en particulier Eva Joly s'est posée sur l'affaire en disant qu'on devait une indemnisation aux gens qui étaient sur les territoires qui ont été contaminés, puisque aujourd'hui on arrive à 2 indemnisations sur tous les essais nucléaires, où on a envoyé délibérément des gens sur les tirs des essais nucléaires quand ils venaient d'être effectués. Quelques heures après, des gens étaient sur le site.
Pour faire
des soldats.
Des soldats qui étaient là pour faire des mesures, essentiellement pour servir de cobayes.
Alors, je vous propose, avant de poursuivre cette interview passionnant avec... deux invités du réseau Sortir du nucléaire, Marc Saint-Aroman, que vous venez d'entendre, et Daniel Rousset. On va faire une petite pause musicale, histoire de se détendre, et je vous propose le morceau de Bonty et Slug Hunter, qui est un groupe qui passera à la Pistouflerie le 10 mars. C'est parti. Thank you.
C'était Bounty et le Seconders qui passera à la Pistouflerie à Castelnau-Bertounas le samedi 10 mars à 21h pour une modique tonne de 6€. Et revenons maintenant au nucléaire.
Merci Thomas. Donc nous nous retrouvons en studio avec l'équipe de Vivre en Commun, donc Thomas, moi-même, Angelo à la technique, Stéphane et Sébastien. Et nos invités.
Les invités, donc Marc Saint-Aromain et puis Daniel Rousset, donc tous deux du réseau Sortir du Nucléaire. Donc ce soir, eh bien, on parle du Japon. Est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux, en fait, dans quel état sont les réacteurs là-bas? Puis aussi, pourquoi pas, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce qu'on a eu toute la vérité dès le début sur cette histoire?
Ben en fait, il n'y a aucun esprit au monde, ni aucun cerveau, ni aucun ordinateur qui peut dire ce que la situation au Japon aujourd'hui. Personne. Puisque tous les appareils qui s'approchent du cœur sont automatiquement détruits par la radioactivité. Donc il y a une méconnaissance totale de la situation au Japon. Simplement, pour le moral des Japonais, 15 jours avant la Noël, on a annoncé que les réacteurs étaient en arrêt froid.
Moi, j'étais rassuré, j'étais content quand j'ai appris ça.
Voilà. Et donc, c'était le but. Ouais. C'était vraiment le but. Et dans la réalité, c'est que les cœurs ayant fondu, il n'y a plus de structure de cœur. Donc, vu qu'il n'y a plus de structure de cœur avec des barres de combustible, etc., tout ça, c'est un magma. Donc, on ne peut pas parler d'arrêt à froid, puisqu'un arrêt à froid, il faut que l'eau circule partout et refroidisse correctement. Et là, ça veut dire qu'on a des points très chauds. Et donc, là-dessus, au niveau du cœur, on ne connaît pas la situation réelle des cœurs. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des points aujourd'hui qui sont à des taux. On parlait de millisieverts par an tout à l'heure. Donc, c'était des équivalents de doses qui sont un peu difficiles à cerner. Et là, il faut multiplier par 1000 à 2000 dans certains points. Donc il n'y a aucun robot, rien ne peut résister. C'est la mort pour l'homme en quelques secondes à proximité de ces zones-là.
S'ils disent quand même que la température est en dessous de 80 degrés, ils donnent des mesures de température régulièrement. Ça, c'est de la propagande.
C'est la propagande. Et la réalité, c'est que quand par hasard, ils s'aperçoivent qu'il y a une poussée de xénon, qui veut dire c'est un gaz radioactif qui est émis en cas de réaction en chaîne incontrôlée, quand il y a des poussées de ce radioélément, à ce moment-là, ils disent mais non, c'est pas grave, c'est les capteurs thermiques qui ont déconné, la température monte, mais c'est pas grave. Chaque fois, donc, ils jouent sur cet aspect-là. La réalité, elle est que la situation exacte, personne ne la connaît et ne peut la connaître. On ne la connaîtra pas avant longtemps. Il parle d'une quarantaine d'années pour démanteler les réacteurs. Ça ne s'est jamais fait, parce que ça veut dire qu'il va falloir découper du corium. Donc, c'est des choses qui ne peuvent pas être faites. Les robots doivent être remplacés très rapidement, parce qu'ils sont détruits très rapidement. Tout ça, c'est quelque chose de fumeux. Aujourd'hui, on ne peut absolument rien dire. On ne peut absolument pas être rassuré. Ce qui est sûr, c'est que la contamination dans l'environnement continue et que des milliers et des milliers de litres d'eau sont stockés parce qu'ils sont contaminés, mais les stocks grossissent et tout ça s'empile et la mer...
TEPCO demande autorisation de rejeter directement en mer, d'ailleurs. Elle a demandé...
Récemment, la solution du sarcophage, comme à Tchernobyl, n'est pas envisageable sur...
Là, actuellement, vu la situation des réacteurs, il aurait fallu envoyer des mineurs comme ça a été fait à Tchernobyl. Il y a eu des dizaines de milliers de mineurs qui ont été envoyés, qui ont fait un travail de plusieurs mois, en quelques semaines, où ils ont construit une enceinte de béton sous le réacteur pour pouvoir contenir le magma qui descendait vers la nappe phréatique. Et donc, en Russie, il aurait contaminé le Dniepr. Et ils ont fait ça. Et donc, devant tout ce qui se passait autour de Fukushima, au bout de quelques semaines, je ne voulais plus parler aux médias, ça ne m'intéressait plus. Je me suis dit, c'est dérisoire, tous les mots qu'on peut échanger par rapport à ce qui se passe là-bas, c'est vraiment du flan, c'est affreux. Et j'ai entendu à France Culture un responsable, toujours des propagandistes, du CEA, qui disait, mais de toute façon, la théorie selon laquelle il pouvait y avoir une explosion atomique si le corium touchait la nappe phréatique était une fausse théorie. Et là, il était en train d'expliquer à la France entière que ces mineurs étaient morts pour rien. Et c'est pas vrai, les mineurs ne sont pas morts pour rien. Il pouvait y avoir un effet de réflecteur au niveau du corium qui faisait qu'il y avait une explosion atomique de très grande ampleur. Et donc ce scénario est toujours menaçant pour Fukushima.
C'est-à-dire que c'est une explosion, moi j'ai entendu, alors je sais pas si c'est vrai, une explosion qui aurait un rayon de 300 km.
Alors là-dessus, c'est pas forcément exact, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il y a des réactions en chaîne incontrôlées. Le problème, c'est de savoir si, comme dans une bombe, la réaction est contenue, ou si elle est libre, comme dans un cœur de réacteur. Un cœur de réacteur, il y a un départ de réaction quand il n'y a plus de refroidissement, un départ de réaction en chaîne incontrôlée. Sauf que la structure du cœur explose, et que la réaction en chaîne s'arrête d'elle-même. Mais pendant quelques milliardièmes de seconde, il y a une explosion atomique. Et si par hasard, il y a un réflecteur autour qui est constitué par de l'eau, par du métal ou par quelque chose, à ce moment-là, on peut avoir une explosion atomique terrible. Mais tout ça, c'est des hypothèses et des scénarios que personne ne maîtrise. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé injecté beaucoup
de beurre.
Voilà, du bore qui est un neutrophage qui absorbe les neutrons pour contenir la réaction en chaîne. Ça, ils en ont envoyé beaucoup.
À Fukushima.
Ils ont injecté dans tous les cœurs. La France a envoyé des avions de bore pour alimenter. Les pays ont aidé le Japon pour mettre énormément de ce neutrophage pour essayer de calmer les réactions en chaîne. Mais il n'empêche que le cœur, à un moment donné, on n'atteint plus la structure et il fait un peu ce qu'il veut à l'intérieur, le corium.
Parce que le cœur est très chaud, donc ils font le béton et ils s'enfoncent dans le sol.
Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est ça le problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les barres de combustible sont des gaines avec, bien sûr, de l'uranium à l'intérieur, et même pour le 3, c'est du MOX. Donc ça, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fondu. Donc on a donc le corium. Le corium, c'est un mélange de métal fondu à très haute dose et de combustible. Donc ce qu'on suppose, nous, c'est que ce corium, chaque réacteur, c'est 100 tonnes quand même, hein, c'est pas quelques kilos.
Alors qu'une bombe atomique, c'est quelques kilos.
Oui, mais donc là, chaque réacteur, le corium, c'est 100 tonnes. Ça veut dire que là, je pense que moi, la cuve métallique a été traversée par ce corium, et tout de suite, ce corium attaquerait et a attaqué sûrement la dalle de béton. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que si pour lutter contre la sismicité, le Japon a fait des dalles de béton de 7 mètres d'épaisseur. Mm-hmm. Alors que, par exemple, Fessenheim, on n'est qu'à 1,50 m. Oui. On voit la différence.
Fessenheim, qui est aussi sur une faille sismique.
Oui, tu as raison. Mais si tu veux, quand on voit les...
Fessenheim, c'est la plus vieille centrale nucléaire française. Voilà. Qui se trouve en Alsace.
Absolument.
La durée de vie a été rallongée de 10 ans.
Pour l'instant, ils sont à 32 ans.
Mais bon. Donc, il faut bien comprendre que les Japonais, quand même, par rapport à la sismicité, ont fait de très, très gros efforts. Donc, la dalle de Fukushima fait 7 mètres. À Fessenheim, c'est 1,50 m. Mais ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si le corium a réussi à traverser ces 7 mètres et a commencé à s'enfoncer dans la Terre.
Oui.
Le fameux syndrome chinois, c'est pas une idiotie. Hein. Certains savants disent oui, peut-être. Aujourd'hui, on ne sait pas. Honnêtement, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les rizières sont polluées, que l'eau de la mer est polluée, que le thé et les feuilles de thé étaient polluées. Je veux dire qu'aujourd'hui, on sait que le Japon doit faire face à une terrible contamination qui va durer dans le temps. Mmh. C'est ça qui est... Parce qu'on pourrait dire, mais bon, il y a 3 morts immédiats, d'accord. C'est quelques ouvriers qui ont été trop près, qui en ont pris plein. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est sur... Les cancers et les leucémies vont apparaître dans un délai de 5, 10 ans, 15 ans. Les malformations. Donc c'est toute une chaîne qui va se dérouler sur des dizaines d'années et qui va faire, comme Tchernobyl, des millions de morts. On est parti là-dedans, hein.
Et c'est le nord du Japon qui serait inhabitable enfin, on pourrait... On ne peut pas déterminer ça aussi.
Ils ont fait des cartes, on voit des cartes de contamination qui sont par points, et c'est une très grande partie du nord du Japon. Ouais, franchement. Mais c'est sur des 300 km, hein, c'est pas... Malheureusement, moi je pense que là, l'inquiétude des Japonais aujourd'hui est terrible, quoi. Ils ne savent plus qu'est-ce que... Parce que ce n'est pas en mettant un dosimètre sur les enfants dans les écoles qu'on résout le problème. Hein, c'est la nourriture, c'est l'ensemble de la vie, de la respiration. Et là, tout est atteint.
Quel risque y aurait si le corium perçait les 7 mètres, comme vous avez commencé à l'expliquer ?
Justement, qui retrouve l'eau.
Et voilà. Et donc là, ça serait le détonateur.
Et là, il peut y avoir explosion nucléaire.
Être thermique, exothermique, nucléaire, personne ne peut le dire.
C'est la surprise, quoi.
Voilà. Il y a plus de 1700 tonnes de combustible en fusion sur le site, et qui est soi-disant en dessous de 100 degrés. Mais tout ça, c'est des conjectures. On n'a absolument aucune certitude là-dessus.
Et le réacteur numéro 4, il n'a pas encore explosé. D'après si j'ai des bonnes informations. Mais il est aussi en fusion, d'après vous
En fait, le 4, il était en cours arrêt, de chargement.
Ouais.
Voilà. Donc il était en arrêt pour le chargement. Donc le cœur était vide. Par contre, le combustible était en piscine.
Oui.
Et comme chez nous, les piscines, c'est des bâtiments qui sont construits aérien, c'est-à-dire que là, il est à, je sais pas, peut-être 20-25 mètres de haut. La piscine est à 25 mètres de haut. Et donc, le combustible là-dedans a perdu de l'eau. Donc, il y a eu production d'hydrogène. Donc, il y a eu des combustions, un peu comme tout sur les réacteurs. Donc, il y a eu vraiment des gros dégâts au niveau de la piscine. Apparemment, ils l'ont contenu. Mais là-dessus, la situation, elle n'est pas très, très, très claire non plus. Sur
la
le
piscine, c'est des quantités énormes. Là, qui...
Voilà. La piscine, là, je sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plusieurs centaines de tonnes, oui, qu'il y a dans les piscines des réacteurs. Qui sont là parce que... c'est pour ça que c'est bien qu'on parle de ça, parce qu'il y a des antinucléaires qui souhaitent qu'on laisse les combustibles sur les centrales nucléaires et qu'on les transporte pas.
Oui.
En fait, il y a quelqu'un qui a rajouté qu'on les porte sur les collines, un peu plus loin. Parce que c'est important, quand même, de ne pas l'avoir. Nos réacteurs sont menacés par les eaux. On a vu aux États-Unis cet été, il y a eu des menaces d'eau. Donc, et à un moment donné, on est sûr que, par exemple, pour le MOX qui était sur le réacteur 3, c'est un combustible particulier à base de plutonium. C'est soi-disant pour recycler du plutonium. Et bien, ce réacteur-là est monté donc beaucoup plus en température et beaucoup plus toxique. Et pour refroidir le MOX, il faut séjourner le combustible 100 ans en piscine. Ce qui veut dire que pendant un siècle, il faut assurer la rotation de l'eau, la présence de l'eau. Et ça, au niveau de temps de génération, c'est des choses qui sont inconnues dans l'histoire. On est vraiment sur un système de folie. Quoi.
C'est-à-dire que les centrales ont besoin d'énergie aussi pour se maintenir, même si elles ne fonctionnent pas. C'est ce qui s'est passé avec Superphénix, par exemple, qui est encore en... Qu'en est-il de Superphénix, qui est une centrale française, qui a été un projet, mais qui a avorté.
Ah non, non, c'est pas un projet. Non, non. Superphénix a été créé.
Qui n'a pas eu sa fonction de production d'électricité.
Ils essayent tout de suite de commencer à le démonter. Mais enfin, quand vous savez qu'il y a 5000 tonnes de sodium pour refroidir ce cœur de réacteur de Superphénix, que vous mettez une petite boule de 10 grammes de plutonium. Sodium. Dans l'eau, vous avez une belle explosion, un beau geyser. Si vous avez dans l'air, ça brûle, c'est assez extraordinaire. Il y en a 5000 tonnes. Et vraiment, là, ils sont coincés. Hein.
Donc, ils sont en train de le distiller. Goutte à goutte, ils le distillent et ils le transforment en soude. Ils le transforment en soude, mais soude radioactive. Donc, ils sont en train de construire des pyramides de soude bétonnée. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui est en train de se faire depuis déjà plus de 10 ans. Et ils ont stocké pas mal de soude. Et ensuite, il y a le plutonium qui a été déchargé. Également, ce plutonium, c'était la plus grosse quantité jamais réunie au monde. Ce qui avait fait dire à un physicien à l'époque antinucléaire, Roger Belbeoc, qui vient de décéder, qu'une explosion sur Superphénix, c'était Genève rayée de la carte. Voilà. Superphénix était proche de Lyon. Donc c'est pour donner une idée de la dimension de cette folie humaine sur le surgénérateur. Et donc ils ont attaqué le sodium, le plutonium, il partira à la Hague, stocké, exactement comme le reste, refroidi pendant des siècles, dans des piscines qu'il faudra protéger contre les risques d'attentats, contre les pertes d'eau froide, contre les pertes d'électricité, contre les risques, tous les risques multiples qui peuvent arriver, chute d'avion, etc. Voilà. Donc on est aujourd'hui dans un monde où on a été capable de créer des choses, des sites comme ça, un peu partout sur le monde, où il faudra avoir une attention pour des siècles.
D'ailleurs, un petit peu partout et pas mal en France, parce qu'on a beaucoup de... Il y a une carte qui est diffusée par le réseau Sortir du Nucléaire, qu'on a là dans le studio, où on voit la France qui est constellée de sites radioactifs. Vous parliez de La Hague tout à l'heure, qui est une usine de... Alors, ils disent de retraitement, mais ça, c'est une usine de transformation des déchets en déchets, quoi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur La Hague, peut-être ? Vous l'avez cité sans
oui, effectivement.
Expliquer ce que c'est.
Ouais, La Hague, c'est une usine du retraitement.
Donc ça se trouve dans la Manche, en Normandie.
On l'a choisi parce que c'est le bout de l'île, là. On peut très bien, tout d'un coup mettre une frontière et l'isoler complètement.
C'est dans le Cotentin, c'est le bout du Cotentin.
Ce qu'il faut savoir, c'est... Moi, ce qui me paraît... En fait, c'est La Hague qui est l'endroit qui pollue le plus la France. Si La Hague pollue plus que les 58 réacteurs en fonctionnement aujourd'hui, c'est assez catastrophique parce que là, la pollution de la mer là, est colossale. On la retrouve sur des milliers de kilomètres. Et tout ça pourquoi ? Franchement, pour pas grand-chose. Parce que l'idée, c'est de dire, ben, ça ennuie la nucléocratie, ça l'ennuie dans les combustibles d'uranium, de savoir que en fait, ils en utilisent 3 ou 4%. Et que les 95% sont partis dans les déchets, dans les tonnes de déchets. Et ça, ça les emmerde. Ils se disent, mais c'est scandaleux, ça nous coûte très cher, on fait des tas de choses pour l'enrichir, etc. Et on n'en utilise que 5%. Donc l'idée géniale, c'était de dire, eh ben, on va essayer de le récupérer. Mais en récupérant, on crée autant de déchets. Et ça nous coûte encore beaucoup plus cher. Nous sommes les seuls au monde à avoir cette idée de retraitement, de récupération, d'essayer.
Les Japonais ont essayé, mais ils ont abandonné l'idée.
Ouais, les Américains n'ont jamais voulu faire ça.
Les Anglais viennent d'arrêter aussi.
Donc là, on est les meilleurs. Les meilleurs en bêtises, parce que franchement, ça n'a aucun intérêt, sinon de nous mettre dans ce mythe du nucléaire, d'une énergie peu chère, qu'on aura tout le temps pour des millénaires, ce qui est faux. L'uranium, aujourd'hui, dans 50 ans, on n'en a plus. Donc il va falloir arrêter de dire des bêtises. Ce n'est pas une énergie qu'on a illimitée. Non. Un minerai d'uranium, il faut aller l'extraire. Aujourd'hui, on l'extrait dans des gigantesques mines d'uranium dans le Niger, au Canada, etc.
Mais vous parlez du Niger, mais pourtant le gouvernement nous parle d'indépendance énergétique.
Non, ça, c'est
donc, s'il y a indépendance énergétique, c'est qu'on ne prend pas l'uranium au Niger, c'est que ça vient de chez nous. Je ne sais pas. Dans le...
Non, ça, c'est une plaisanterie, c'est des mensonges. Nous,
alors, au Niger, c'est une société française.
Bien sûr, un rêve.
Mais le Niger n'est pas la France, ou n'est plus la France.
Ce n'est plus une colonie. Ce qui est important sur ce taux d'indépendance énergétique, c'est l'argument de Nicolas Sarkozy. C'est de dire la France est à 50% indépendante énergétiquement grâce à son nucléaire. Et un jour, j'ai posé la question à... au patron de la centrale de Golfech, je lui disais, mais comment ça se fait qu'on vient de prendre 60 milliards de plus de factures énergétiques alors qu'on est indépendant? C'est pas possible. Il y a quelque chose de pas sérieux. Bon, là, bien sûr, il était coincé. Effectivement, il y a un bouquin donc, du réseau qui est sorti récemment avec deux spécialistes, et il montrait qu'en 73, on avait un taux d'indépendance énergétique de 24%. Et... aujourd'hui, donc je disais, Nicolas Sarkozy affirme qu'on est à 50%. En réalité, en 2009, on est en dessous de 10%. 2009, 10% d'indépendance énergétique, d'après les calculs internationaux, pas ceux de la planète. Et là, on s'en aperçoit encore sur les factures. On a dû avoir un bénéfice l'an dernier de, en gros, 800 millions sur la facture énergétique, grâce au nucléaire. Et on a pris une facture globale sur les produits, parce que, faut le dire, 73% de la consommation énergétique française est liée au pétrole, au charbon et au gaz. Voilà. Donc là-dessus, l'indépendance énergétique, elle n'y est pas et elle n'y sera jamais.
Et le prix de l'électricité nucléaire prend-il en compte l'assurance sur les risques d'accident, le démantèlement, le stockage des déchets selon la durée de vie des radionucléides?
On est en face d'une pour moi, le nucléaire, après des dizaines d'années de lutte, pour moi, c'est clair, c'est un cancer totalitaire, vraiment totalitaire. On est devant une dictature qui a complètement... phagocyter les élites françaises. On n'est plus en démocratie. Là, jamais, moi, aux citoyens, on m'a demandé si je voulais le nucléaire. Jamais on nous a dit... c'est une suite de mensonges, mais vraiment éhontés. C'est ça qui est terrible. Ils nous mentent. Aujourd'hui, on nous dit « Ah oui, mais si on n'a plus de centrale nucléaire, c'est le retour à la bougie. » Fabuleux, on a tous entendu ça, Sarkozy, là. Oh, formidable. 75% de notre énergie électrique est d'origine nucléaire. Ok, mais Marc vient de vous dire...
D'ailleurs, les Allemands s'éclairent à la bougie depuis un an, à peu près.
Ouais. Et les Japonais aussi.
Donc, oui,
les
Japonais aussi.
La plupart de la planète, d'ailleurs.
L'énergie électrique, c'est que seulement 16% de notre consommation totale d'énergie. 16%. Ouais. Et au niveau de la planète, c'est 2,5%. Donc le nucléaire, c'est une énergie marginale au niveau de la planète. Point final.
Comment des gens ont pu imaginer cette énergie alors qu'elle mettait en péril même les générations futures de ces gens-là qui ont pu imaginer cette chose?
C'est tout simple. La réalité, c'est après la guerre, chaque pays voulait avoir la bombe atomique. Le plus simple, Charles de Gaulle a choisi, c'était les réacteurs graphite-gaz. Il en lançait un à Brénilis, en Bretagne. Et pour faire, les militaires venaient, ils chargeaient directement au pied des réacteurs le plutonium de qualité militaire pour pouvoir faire la bombe atomique. Voilà. Donc c'est une histoire de consanguinité entre le nucléaire civil et le militaire. Et à un moment donné, il y a un acte international qui est Atom for Peace, qui dit, voilà, vous avez vu le monstre, c'était la bombe atomique, maintenant vous allez voir la fée électricité à travers le nucléaire. Et puis la fée électricité, elle a fait ses preuves, malgré la propagande, elle a fait ses preuves au niveau de la planète. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, malgré tout, c'est que sur les politiques et les industriels n'ont qu'une vision, la continuation de l'atome, malgré Fukushima. On a entendu Anne Lauvergeon, qui était la patronne d'Areva, dire « Mais il va y avoir la résilience, l'esprit va revenir à l'état initial. » Elle se trompe. L'humanité entière a vu les images de Fukushima grâce à Internet. L'humanité sait ce que c'est le nucléaire. Et plus personne n'en veut, sauf que les industriels, les politiques font la propagande pour dire « mais on peut continuer ». C'est faux, ils se trompent. Et on le voit en Inde, on le voit en Égypte, on le voit à travers tous les pays où ils veulent développer le nucléaire. Il a fallu qu'ils tirent l'arme lourde sur les manifestants en Inde il y a quelques temps. Donc, les Égyptiens sont déterminés. Ils sont sur les sites de construction des réacteurs d'Areva, ils n'en veulent pas. Donc ça, il y a un mouvement populaire qui fait que tout ce qui est fait au niveau propagande sera balayé. Les États ne peuvent plus mentir. Les gens connaissaient la bombe atomique, ils connaissent maintenant Tchernobyl, Three Mile Island et Fukushima, et on ne les trompera plus. Donc la sortie du nucléaire est inéluctable, et c'est pour ça que nous, dans cette voie-là, ce que disait Daniel tout à l'heure, par rapport à la chaîne humaine, c'est vital qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent sur le Rhône pour montrer aux politiques qu'ils ne nous prendront plus pour des lampistes.
Alors, je vous poursuis. Je propose de faire une petite pause musicale. Et on reprendra tout à l'heure. Donc, c'est la suite des expérimentations zoïdesques de Zoïd, qui, comme chaque mois, nous propose des morceaux de musique originaux. Et donc, ce sera là le morceau Explose.
Je veux lâcher, ça va souiller. Belle histoire d'amour. Une histoire d'amour.
L'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges.
Sur les ondes de Radio Coteau.
104.5
ou 97.7
FM.
Et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois.
À 18h.
Actu local,
interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.
Voilà, nous sommes de retour dans les studios de Radio Coteau. Vous êtes bien dans l'émission qui va sauver la planète, l'émission de Vivre en Comminges. Et nous sommes dans notre deuxième partie d'émission où nous recevons Daniel Rousset et Marc Saint-Aroman du réseau Sortir du Nucléaire. Et nous avons également en studio toute l'équipe de Vivre en Comminges avec Sébastien, Stéphane, Thomas et moi-même Angelo. Alors nous en y étions, on parlait du coût du nucléaire.
Oui, il y a Nicolas Sarkozy toujours qui a voulu essayer de couper court suite à Fukushima au problème du nucléaire, donc, puisqu'il avait fait la démonstration de ses limites, le nucléaire, un peu dans tous les domaines, et il restait que le problème financier. Donc c'était quelque chose qui était pas du tout cher. Et malheureusement pour lui, la Cour des comptes a rendu son rapport en janvier 2012, et c'est pas tout à fait exact, puisqu'il s'avère qu'en particulier, ce qui est promu comme le fer de lance de la nouvelle génération, la génération 3, le réacteur EPR, ben, il va sortir, suite à l'expérience Fukushima, un réacteur à 100 mégawattheure, pardon, un réacteur à 100 euros le mégawattheure, 100 euros le mégawattheure, quand on sait que M. Proglio, patron d'EDF, vient de vendre à ses concurrents le mégawatt à 42 euros. Donc chaque kilowatt, il va perdre beaucoup d'argent sur l'EPR, à condition que l'EPR se prie à 100 euros, c'est à condition que l'EPR arrive à fonctionner, et qu'il arrive à fonctionner 60 ans, et avec des périodes d'arrêt très courtes. Donc tout ça, c'est des hypothèses fumeuses. Donc aujourd'hui, il y a une solution qui va être prise, et qui devra être prise par les politiques tôt ou tard, une solution courageuse, déjà d'arrêter, de fermer les chantiers EPR et d'arrêter l'EPR. Ça, c'est sur l'aspect uniquement futur. Mais sur l'aspect actuel, le financement a été effectué par les contribuables dans les années 70, donc les milliards d'euros. Et derrière, aujourd'hui, le coût du nucléaire, malheureusement pour M. Sarkozy, le nucléaire revient à des coûts nettement supérieurs, sachant qu'il y a des inconnus qu'on a essayé de lever à la Cour des comptes, puisque pour la première fois, la Cour des comptes a reçu les ONG, elle a dit qu'il y a trop de critères. Elles ont convoqué donc toutes les ONG, Greenpeace, la CRIRAD, le réseau sortir nucléaire, et nous avons été leur expliquer ce qui, pour nous, était important, et en particulier l'amélioration des conditions des travailleurs du nucléaire, tous ces intérimaires, 80% des gens qui sont exposés aux radiations. Et on a dit, voilà, si vous prenez des conditions de vie salariale normales, vous montez le coût de la main-d'œuvre de plusieurs centaines de milliards par an, parce qu'il va falloir assumer le coût social. Et donc tout ça a fait que les fourchettes sur l'enfouissement des déchets, comment prévoir pour les centaines de milliers d'années à venir, comment va évoluer le stockage des déchets à activité haute.
C'est-à-dire que là, c'est un coût infini, en fait. Voilà. C'est un coût sur l'avenir. On parlait de vote. Daniel nous disait qu'il n'avait pas voté pour le nucléaire, mais les générations futures n'ont pas voté pour le nucléaire non plus. Quoi. Voilà. C'est aussi voter pour cette énergie-là, et puis
ça, c'est un marché juteux, le démantèlement aussi.
Juteux.
Pour ces lobbies, je veux dire.
Est-ce que vous avez une idée du coût du démantèlement? Est-ce que les plus anciennes centrales au graphite ont été démantelées ou sont en cours de démantèlement?
Il n'y a aucune centrale qui a été démantelée aujourd'hui.
Grossièrement.
Mais tout de suite,
aux États-Unis, quand même.
Non.
Partielle.
Ah, partielle. D'accord, on peut démonter les parties non nucléaires, ça c'est facile, on l'a fait déjà à Brindilis, on retire les alternateurs, on retire tout ce qui est non nucléaire. Mais
donc Brindilis, c'est en Bretagne, c'est une des centrales.
C'est la première qu'on essaye de démonter. Oui.
Voilà, c'est aussi une centrale d'un type qui est beaucoup plus ancien que les autres, beaucoup plus petit.
Très faible puissance. Elle était
et qui a déjà englouti une partie du fonds qui était réservé au démantèlement des centrales en France, alors que ce serait presque la plus simple à démanteler.
Voilà. Tout de suite, on estime avec les coûts qu'on a d'Angleterre que quasiment la déconstruction, enfin la remise à l'herbe, comme ils disent, d'une centrale nucléaire serait au moins l'équivalent de sa construction. Donc si tout de suite, une en centrale, gros, c'est 5-6 milliards, ça veut dire que 58 centrales multipliées par 6-7 milliards, on est à, je sais pas quoi, 400 milliards. On est loin vraiment de ce que provisionne EDF, puisque tout de suite, il doit être à 10%, c'est-à-dire, je sais plus quoi, 50 milliards. Donc ça veut dire que les générations futures vont devoir non seulement donc gérer les déchets, mais gérer aussi cette déconstruction. Donc là, on est mal. Hein.
Alors que le déficit de la France, c'est 1600 milliards, je crois. Hein. Enfin, ce qui crée la crise économique aujourd'hui en France, c'est cet ordre-là un peu.
Moi, je crois que là, par exemple, quand on regarde pourquoi, après Three Mile Island aux États-Unis, il y a eu aucune
est-ce que
construction.
Tu peux rappeler ce que c'est que Three Mile Island?
C'est la première centrale nucléaire qui a eu le cœur fondu.
Alors, se passe aux États-Unis?
C'est aux États-Unis vers les années 55.
79.
Combien ?
1979.
Bonjour. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que les Américains, quand ils ont vu d'abord que ça leur coûtait de protéger, parce qu'ils ont failli aussi avoir une explosion totale, bon. Mais quand ils ont vu le prix que leur coûtait rien que le fait de réaménager Three Mile Island et les centrales équivalentes, ils ont dit stop, on arrête. Depuis 35 ans, aucune centrale nucléaire a été construite aux États-Unis, uniquement sur le problème bêtement du fric. Une centrale nucléaire, il faut 40 ans pour la commencer à retrouver son investissement. Eh bien, un capitaliste moyen intelligent dit non, attends, moi j'investis dans les, je sais pas quoi, dans les capteurs solaires, et au bout de 7 ans, j'ai récupéré ma mise. Donc, au niveau économique, si on n'est pas dans un pays totalitaire comme en France ou en Russie, le nucléaire n'a aucune chance de continuer et de progresser.
Mais l'origine du nucléaire, tu le disais, vous le disiez, c'était militaire, aussi une ambition militaire. Et,
le pouvoir,
de puissance. Et donc cette ambition militaire, elle est toujours présente de la France. Et c'est la...
Ça s'appelle un lobby militaro-industriel.
Mais la France a de quoi faire des milliers de... En stock actuellement, la France a de quoi faire des milliers de bombes nucléaires.
Il faut savoir que l'activité nucléaire chez les militaires représente à peu près la moitié de leurs moyens et de leurs effectifs. Ils sont à la moitié de leurs moyens sur la maintenance de l'arme nucléaire. Donc c'est énorme, je sais parce que je connais quelqu'un qui travaille.
Si on pouvait aussi commencer à se désarmer, ça serait formidable, y compris en France. D'ailleurs, on pourrait nous décider un désarmement unilatéral, rapide.
Et sur le stockage des déchets nucléaires, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la durée
de vie des
radionuclides.
C'est assez impressionnant.
Le plutonium.
Voilà, 24 000 ans.
Demi-vie.
Donc, ce qui veut dire qu'il faut en gros 12 demi-vies pour voir commencer à disparaître le radioélément. Donc, vous voyez les centaines de milliers d'années que ça fait.
C'est l'éternité à l'échelle humaine.
Voilà, c'est l'éternité à l'échelle humaine sur certains radioéléments. Et qui, en plus, il y a une impasse totale sur le stockage en profondeur des déchets radioactifs. C'est que déjà, le combustible va produire par sa dégradation, son oxydation, de l'hydrogène. Donc il va falloir évacuer les productions d'hydrogène, sinon c'est des explosions comme on l'a vu à Fukushima. L'hydrogène, quand il arrive à un certain taux, il s'auto-inflamme ou il explose. Et explosion à 2 km seconde, c'est l'explosion. Donc ça pulvérise tout, il n'y a rien qui résiste. Et donc ces affaires-là nous guettent pour des milliers d'années. Mais il y a un élément qui est important, vous venez de parler du démantèlement, c'est qu'au départ, le démantèlement ne coûtait pas cher. On prenait les déchets, on les mettait dans des bateaux et on les jetait en mer. C'est jusque dans les années 85. Et ils appelaient ça, l'AIE a appelé ça expérimentation en mer. Donc c'était des expériences, alors qu'ils jetaient. C'était vraiment. Et donc tout ça, ça s'est fait. Et aujourd'hui, c'est des coûts qui n'étaient pas prévus, puisqu'on pensait pouvoir se débarrasser tranquillement de tout ça en mer. Donc là-dessus, c'est un élément important sur l'évolution qui fait que, de toute façon, plus on avance dans le temps, plus il faudra protéger les gens, plus il faudra protéger les salariés, et plus cet isolement coûtera cher, et donc plus le démantèlement coûtera cher. Et ça, c'était quelque chose qui n'avait pas du tout prévu. Pour ce qui est de votre question concernée...
La durée du stockage.
Voilà, la durée du stockage. Alors là, ils ont la prétention de dire « déchets faible activité, vie courte ». Bon, alors on s'est dit, c'est quoi ? Mais chaque pays a sa réglementation pour définir ce qu'est le déchet. Et j'avais vu, il y a une quinzaine d'années, donc on voyait la Suède qui disait, il faut assurer la stabilité du stockage pour 1 million d'années. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des ingénieurs qui sont capables de dire, voilà, il faut assurer ça. Et chaque pays avait sa propre définition. Et en France, on a des classifications, qui sont sur le papier, mais pas dans la réalité, où on dit, voilà, ce stockage, on a des éléments comme le césium, qui a une demi-vie de 30 ans, le césium 137, et donc à ce moment-là, dans 300 ans, c'est fini, le stockage est propre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de déchets. Voilà leur théorie, sauf que les déchets sont mélangés, sauf que ça reste théorique, et que la réalité, ce sont des magmas infâmes qui sont hyper contaminés. Comme le disait Daniel, le Hague rejette 400 tonnes de déchets par jour en mer, de déchets radioactifs qui remontent jusqu'en Norvège. Il y a tous les pays de l'axe Oslo-Paris qui ont demandé l'arrêt de ces rejets, ils n'ont pas obtenu gain de cause. Ça va peut-être basculer puisqu'il y avait l'Angleterre qui le faisait. Mais comme l'Angleterre vient de cesser cet été l'arrêt du retraitement, peut-être qu'il ne restera plus que la France et qu'enfin l'axe Oslo-Paris va obtenir l'arrêt de la Hague. Et ça, on y compte fermement dessus.
Moi, j'aimerais bien qu'on revienne quand même aux énergies nouvelles, aux économies d'énergie, parce que à nous entendre, là, tout ça, c'est d'une tristesse absolue. On n'a plus qu'à se flinguer dans ces cas-là. Alors que tout ça, il existe une solution. Ouais. Il existe des solutions techniques.
La bougie.
À côté, il va vous dire que sa maison, ben, elle est autonome à plus de 100%. C'est-à-dire qu'il a des capteurs solaires pour l'eau chaude sanitaire. Il a des capteurs photovoltaïques pour se faire l'électricité. Et donc, aujourd'hui, nous avons les moyens, si nous une décision politique, de se passer totalement du nucléaire. Ce qui est extraordinaire avec le Japon, quand même, il faudrait entendre ça. Le Japon avait 54 réacteurs nucléaires. D'accord, avant Fukushima. Aujourd'hui, il les a quasiment tous arrêtés. Il y a 52 réacteurs qui sont arrêtés. Il n'y en a plus que 2 qui sont en fonctionnement. Et dans un mois, il n'y en aura plus du tout parce qu'ils doivent les recharger. Il n'y aura pas de décision politique pour redémarrer. Donc aujourd'hui, le Japon nous montre qu'en un an, on peut totalement sortir du nucléaire sans avoir de recours à la bougie. Alors ce qu'ils ont fait, c'est vrai, on a arrêté les publicités lumineuses. Excusez-moi, mais je n'ai pas encore très bien compris pourquoi les abribus, à longueur de nuit, ont leur publicité allumée. Après, eh bien, c'est vrai, ils ont fait des économies massivement d'énergie. Tout ce qui est inutile, eh bien, on a arrêté. Peut-être qu'on a mis un pull de plus l'hiver, ou l'été, on a eu un petit peu plus chaud. Mais franchement, aujourd'hui, notre mode de vie ne sera pas bouleversé. On a les moyens techniques avec les éoliennes, la géothermie, le solaire. On a vraiment tout ce qu'il faut. La biomasse, bien sûr. On a tout ce qu'il faut pour se passer du nucléaire. Et alors, chose extraordinaire, ce qu'il faut savoir quand même, dans les 15 derniers jours, il a fait très froid, eh bien, l'Allemagne nous a fourni l'électricité. Ce pays qui vient d'arrêter brutalement 8 réacteurs, Sarkozy disant, mais les Allemands ils peuvent pas, c'est pas possible. Eh bien, ils ont trouvé le moyen de nous fournir de l'énergie quand nous, tous nos petits chauffages électriques, nos radiateurs électriques étaient allumés. Donc franchement, là, il y a encore des mensonges. Et moi, je pense que la solution, eh bien, c'est que chacun, individuellement, fasse des économies. La décroissance, ça existe. Est-ce qu'on a besoin d'allumer toutes nos lampes en même temps? Est-ce qu'on peut pas prendre des lampes LED? Est-ce qu'on peut... Il y a toutes sortes de solutions aujourd'hui.
On peut aller sur Enercoop aussi, qui finance des énergies renouvelables.
Voilà, Enercoop.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'Enercoop? Oui, c'est une alternative à EDF, c'est ça?
Enercoop, c'est une société qui a décidé de produire, d'acheter des productions électriques complètement renouvelables et de le fournir à ses clients. Alors c'est vrai que ça prend le réseau de EDF, donc c'est des compensations. Mais aujourd'hui, quand vous êtes coopérant à Enercoop, eh bien, vous êtes certain à 100% que l'énergie que vous avez achetée est totalement une énergie renouvelable.
Il y a un petit surcoût, mais qui risque d'être absorbé par l'augmentation. Je crois que c'est un tiers de plus le prix de kilowattheure.
Tout à fait, 20%. Ouais. Enfin, bon. Attends, c'est un choix de vie aussi. Est-ce qu'on veut continuer le nucléaire ou est-ce qu'on veut se donner les moyens de faire autre chose?
Il y a un élément important dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que, par exemple, on a eu un cas terrible à Toulouse, l'incinérateur du Mirail a une conduite qui a pété d'eau chaude et qui n'a plus alimenté le quartier du Mirail. Donc des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées dans le froid, avec des températures qui étaient en dessous de... qui descendaient jusqu'à plus bas que moins de 10 degrés.
En février dernier.
Et donc là, si on avait eu... Et c'est là qu'au niveau, au niveau du citoyen, on a un poids. On peut jouer sur les syndicats... on peut jouer au niveau des collectivités en demandant, en exigeant qu'ils déroulent simplement des tuyaux sur les toits. C'est des choses qui ne coûtent pas très cher, faire du solaire thermique. Et ça, si on couvre tous les immeubles du Mirail avec du solaire thermique, ces périodes-là, il n'y avait aucun souci, parce qu'ils avaient au moins... 50% de l'énergie nécessaire qui était fournie simplement par le soleil. Parce qu'avec des températures de moins de 10, on peut avoir des toits à 50 degrés ou 60 degrés. Donc ça, c'est des choses simples, techniquement très simples. C'est un simple tuyau. C'est des choses qui existent depuis toujours. Et là, il y a des solutions techniques pratiques où l'individu a un pouvoir. C'est celui d'aller choper son syndic, de lui dire, voilà, nous, on va... Au niveau de la collectivité, ça va nous coûter peut-être 500 € par locataire. On met ça sur le toit et derrière, en 2-3 ans, on a un retour sur l'investissement. On peut se chauffer. Ça, c'est important. Et le deuxième point majeur, c'est qu'en France, on se chauffe à l'électricité. Donc on produit à Golfech, je vais prendre ce cas ici, on produit une quantité d'électricité. Il y a les deux tiers qui s'en vont en fumée dans l'environnement. Et le tiers qui reste, il arrive chez soi, il est encore perdu sur les lignes. Donc on a un cinquième de ce qui a été mis au départ en énergie. Ce qui veut dire que si on prend n'importe quel autre moyen de chauffage, qu'il soit bois, gaz, pétrole ou n'importe quoi, on arrive à des rendements qui peuvent atteindre 60-70%. Là, on arrive moins de 20%. Et ça, c'est une aberration typiquement française. Il y a des pays où le chauffage électrique est interdit. On ne peut pas se chauffer avec l'électricité parce que c'est une énergie noble. Voilà. Et ça, si on passe par tous ces éléments... Et c'est ce qui est en train de découvrir le Japon, ce que découvre l'Allemagne. Bon, effectivement, Besson, comme tu le disais, a fait un recours à l'Europe contre l'Allemagne parce qu'il avait besoin de l'électricité pour alimenter la France. Il a perdu, bien sûr. Mais il y a des tentatives comme ça. C'est là qu'on voit qu'on marche vraiment sur la tête au niveau des politiques.
Bien isoler les habitations aussi, faire un effort sur l'isolation thermique.
Ouais. En plus, là, au niveau de l'emploi, on voit que l'Allemagne, tout de suite, elle a créé, au moins dans les 7-8 ans, à peu près 300 000 emplois sur les renouvelables. Alors que nous, là, qu'est-ce qu'on a? Rien. Pire que ça. Comme en fait, on n'a pas assez d'argent, donc on a mis tout dans le nucléaire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On avait déjà des petites PME qui se lançaient dans les photovoltaïques. Eh bien, quand les subventions d'État ont changé, ils nous ont obligés à changer un certain nombre de normes, eh bien, aujourd'hui, il y a des usines de photovoltaïques qui sont à la masse, qui ne peuvent plus continuer, qui s'arrêtent. C'est un véritable scandale. Donc, franchement... Là, le nucléaire en France est un boulet qu'il va bien falloir un jour arrêter le plus vite possible, parce que là, c'est un boulet sur l'avenir. On ne crée pas la renouvelable et les économies d'énergie, c'est de la décentralisation. C'est de travailler sur le local. Et là, on voit bien que c'est de l'emploi.
Ouais.
Pour, et d'ailleurs, vous avez édité, le réseau sorti du nucléaire a édité un document qui proposait, à la place de construire la centrale EPR de Flamanville, de proposer un plan avec la même somme et qui aurait permis de, à la fois de, d'économiser, en faisant des économies d'énergie, de ne pas être en rupture et puis de créer de nombreux emplois. Quoi.
On a fait un calcul, 7 fois plus d'emplois pour la même somme.
Vous pensez qu'un jour la justice pourrait être faite? Parce que ça me paraît terriblement injuste, tout ce lobby nucléaire. Là.
Ça, j'avoue que j'aimerais bien un tribunal Russell, un peu comme...
Il y a des gens qui y travaillent.
Au niveau du droit international.
Au niveau français et international, il y a des gens qui travaillent à ça. Je voudrais lever un point qui me paraît très très important, c'est que ce qui s'est passé en 1974 est en train de se reproduire aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'en 1974, on a lancé un programme nucléaire sans consulter la population. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place un processus de prolongation de la vie des réacteurs. Il y a 44 générateurs de vapeur qui sont des mastodontes d'acier qui ont été commandés à Areva. Et on est en train de mettre en place des rustines sur les réacteurs actuels pour les faire durer 40, 50 ans. Ça, c'est le projet. Sauf que, on en a parlé tout à l'heure, les réacteurs sont dans un très mauvais état. On fait un rafistolage qui est excessivement dangereux et qui ne fonctionnera pas. Ça, c'est une certitude technique. Et derrière là-dessus, donc, ce qui est fait, c'est en sous-main, le gouvernement, avec Areva et EDF, prépare la continuation du parc sans avis encore de la population. C'est-à-dire que tout est mis en place, des milliards d'euros sont mis en douce, et on a fait un calcul rapide, on pourrait produire l'équivalent de 24 PR uniquement avec l'argent qui va être mis dans la maintenance. L'équivalent en énergie de 24 PR uniquement sur les énergies renouvelables, les économies d'énergie, l'efficacité énergétique et les alternatives. Donc ça, c'est quelque chose de monstrueux. Et là, il va falloir qu'on trouve les solutions, nous, en tant que citoyens, pour torpiller les politiques sur cette affaire.
En cas d'accident nucléaire, vous conseillez quoi à la population en cas d'accident nucléaire quand même, parce que je pense que quand ça arrivera, ça sera...
Mais, c'est-à-dire qu'on l'a vu au Japon, ceux qui avaient de l'argent ont pris l'avion et sont partis vivre ailleurs. Ouais. Ils sont en train de faire un Eldorado en Inde où ils ont acheté des milliers d'hectares. Oui, au lieu d'aider les populations, ils aident. Ils sont en train de se... Et ceux qui n'ont pas d'argent sont sur place, ils vivent en zone contaminée, sont en train de s'irradier, irradier leur famille. Donc il y aura toujours cette inégalité-là qui va se faire, sachant que de toute façon, même ceux qui ont réussi à fuir, tôt ou tard, se feront rattraper eux aussi par le nucléaire. Donc il est temps qu'ils prennent conscience que la supercherie a assez duré.
Et ceux qui sont irradiés deviennent dangereux pour les autres, ils sont eux-mêmes
Voilà, c'est le problème majeur.
C'est une peste, c'est une malédiction.
Voilà. Et malheureusement pour eux, effectivement, ils sont...
Personne n'en voudra, non.
Voilà, c'est ça qui se produit à Tchernobyl il y a 25 ans, ça se produit aujourd'hui, il y a les pestiférés de Fukushima, quand ils cachent leur identité parce que les gens ne veulent pas les approcher. Donc ça, c'est un des gros problèmes que, bon, de toute façon, statistiquement, on sera confronté à ce problème en France, puisque de toute façon, dans les années à venir...
Les frontières seront bloquées, vous pensez? On ne pourrait pas fuir en voiture ou...
Mais écoutez, on le voit au Japon, c'est au début qu'il y a eu les évacuations, il y a eu de la contamination qui s'est faite un peu à travers le monde, les Russes ont alerté, les Français ont dit « hop, 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 vous gardez vos conteneurs, ils sont contaminés, mais là, on n'entend plus parler de rien. » Mais ils sont toujours contaminés, les conteneurs. Donc la solution, c'est qu'il y a un équilibre qui se fera parce qu'on n'a pas le choix, comme les Japonais n'avaient pas le choix de continuer à vivre comme ils le font aujourd'hui parce qu'il n'y a pas les moyens suffisants financièrement. Et donc, ça sera la catastrophe. C'est-à-dire que chacun va essayer de sauver sa propre peau. Quoi. C'est vraiment une urgence. Mais une urgence de mettre à l'arrêt les réacteurs, sachant que, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on les a à l'arrêt qu'on va être en sécurité. C'est qu'il va falloir assurer les stockages de déchets et des choses pour des millénaires. Donc on s'est engagé dans un processus infernal dont on ne voit pas l'issue.
Une lutte totale contre l'atome.
Une petite incise. Ouais. Est-ce que vous savez dans quel pays la durée de vie diminue? Puisque dans tous les autres pays de notre planète, notre durée de vie augmente. On passe de 60, 70, 75, etc.
J'ai entendu parler des États-Unis.
Hein? Non, non, non. Les seuls pays au monde où l'espérance de vie diminue, c'est l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie. Justement, chez Tchernobyl.
Ah oui.
Donc là, ces trois pays-là ont une espérance de vie qui diminue, contrairement à l'ensemble de la planète, dans lequel elle, grâce à ce qu'on mange mieux et notre vie plus saine, augmente, sauf en Russie, en Biélorussie.
Sauf que le lobby a bien sûr la réponse, c'est parce que c'est des pays qui sont...
C'est la vodka.
Oui, voilà, c'est la dépression. D'ailleurs, ils l'ont dit au Japon, surtout ne regardez pas les nouvelles, ne donnez pas d'informations sur la radioactivité, parce que ça déprime, et c'est très mauvais, ça donne des cancers.
Les Russes ont eu un accident parce qu'ils étaient mauvais et puis les Japonais. Voilà.
Donc ça, c'est une inquiétude. Trop au courant de Tchernobyl aussi, ça les a déprimés.
Ça, c'est une inquiétude, c'est parce que justement, dans les opérateurs du nucléaire, des 400 centrales nucléaires au monde, les opérateurs ont accepté dans leur tête, pour pouvoir vivre, parce qu'ils gagnent leur vie avec le nucléaire, de dire oui, effectivement, c'est un accident russe de passéiste, alors que le réacteur était neuf, il avait 3 ans, que c'était vraiment une horloge. Et donc, on leur a fait croire ça. Et aujourd'hui, nous, l'inquiétude qu'on a eue suite à Fukushima, c'est que les 400 réacteurs sont équipés de personnel qui ont maintenant peur, parce qu'ils savent que c'est la première puissance au monde qui a failli, une des premières puissances au monde qui a failli, et donc ils ont peur. Et j'ai un gars, un copain qui travaille au CEA sur le Rhône. Et il a dit, j'ai travaillé avec les Japonais, je travaillais sans cesse avec eux, ils ne laissent rien au hasard, ils sont très rigides, et derrière, il dit, maintenant, j'ai peur. Mmh. Voilà.
Et ils sont aussi bons que les ingénieurs français, peut-être voire même meilleurs.
Ils sont supérieurs techniquement, ça c'est sûr. En robotique et autres, ils sont nettement supérieurs à la France, oui.
Donc on l'a compris, avec cet entretien depuis un peu plus d'une heure, qu'il est urgent de sortir du nucléaire.
Avant qu'il y ait une catastrophe.
Pour se faire entendre par rapport à cette question, les gens qui seraient contre sont invités à l'invitation du réseau sortie du nucléaire à venir manifester de Lyon à Avignon. Donc c'est le dimanche 11 mars.
Dimanche prochain.
Quel est le rendez-vous à Toulouse?
Et donc, il y a un départ organisé depuis Toulouse pour rejoindre la chaîne humaine.
Vous allez sur le site, là. On a fait un site chaîne humaine et vous allez voir tous les rendez-vous à travers la France et les cars. Mais maintenant, c'est un peu tard parce que les cars sont quasiment tous pleins. Donc, ça va être le covoiturage. Il y a de la place, d'accord.
Vous avez encore de la place.
Donc, le site, c'est www.chaînehumaine.org. Et voilà. Pour continuer sur le sujet, je vous propose de lire un super bouquin qui s'appelle « En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment ?» de Benjamin Dessus et Bernard Laponche, qui sont des spécialistes. Benjamin Dessus a travaillé EDF, et il est actuellement au CNRS, et Bernard Laponche est un ancien du CEA.
Et ce soir, il y a aussi, on peut le dire, quand même, sur Arte, il y a un documentaire sur les leçons de Fukushima. Voilà, on enquête sur une super catastrophe nucléaire. Alors, qui parlera entre autres de la situation dans la centrale, du gouvernement nippon qui cherche depuis le début à minimiser la gravité de la situation, et du lobby nucléaire qui, sur le plan international, tente de préserver un marché juteux.
Et pour finir, rappeler que c'est bientôt, comme tu le disais Sébastien, c'est bientôt les élections, et sur le site de Sortir du Nucléaire, on voit il y a les candidats à l'élection présidentielle qui ont été interrogés par Sortir du Nucléaire, et certains ont répondu, d'autres non. Et on voit qui est pour la sortie du nucléaire, qui est contre. Et voilà, on s'aperçoit que les candidats qu'on entend le plus, les socialistes et Nicolas Sarkozy, sont pour la continuité du nucléaire. Et on retrouve pas grand monde dans le contre, hein, au final.
Peut-être les Verts quand même, non ?
Les Verts sont contre et le Front de Gauche propose un référendum.
Voilà, il y a Jean-Marc Governatori aussi qui est contre.
Quand je parle de régime totalitaire, c'est ça. C'est vraiment toute notre élite politique a été complètement phagocytée pendant 40 ans sur le nucléaire. Et aujourd'hui, elle ne sait pas en sortir.
Et je ne m'intéresse pas beaucoup aux sondages, mais est-ce que des sondages ont été faits sur ce que pensent les Français? Est-ce que les Français veulent, eux, du nucléaire encore ou pas? Ou c'est juste l'État qui nous impose ça?
Oui, mais voilà, c'est l'État qui impose. Et en fait, il y a une imposition facile, puisqu'il y a eu 40 ans de propagande. La question, c'est... Oui, il faut sortir, puisque, comme au niveau mondial, les Français sont convaincus qu'il faut sortir. La seule question, c'est qu'on leur fait croire que ce n'est pas possible. Et nous, on l'affirme aujourd'hui, quand ça représente 17% de l'énergie finale consommée, on peut sortir du nucléaire, et comme ça a été dit, c'est urgent.
Eh bien, Marc Saint-Aroman du réseau Sortie Nucléaire, je vous remercie. Daniel Rousset également d'être venu pour cette émission. Vous êtes venu de Toulouse.
Et merci à vous.
Vous pourrez retrouver des liens sur le site internet de Vivre en Commun, vivreencommun.org, vers les différents associations, réseaux et organismes dont on a parlé pendant l'émission. Et vous retrouverez aussi les détails de cette date du 11 mars 2012, date anniversaire de la catastrophe du début de la catastrophe de Fukushima au Japon. Mais à bientôt et merci d'être venu.
Merci à vous.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Sur les ondes.
Vivre en Comminges sur les ondes de Radio Coteau 104.5
ou 97.7
FM
et en direct sur le web.
Vivre en Comminges, l'émission de radio.
Tous les premiers mardis du mois
à 18h.
Actu local, interview, agenda, musique.
Vous saurez tout sur le Comminges.